18h. Bonsoir Aurélie Kiffer.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Trump ou Biden, l'Amérique s'apprête-t-elle à changer de visage? C'est l'affluence dans les bureaux de vote et la participation est justement un élément clé de cette élection présidentielle. On fait le point tout de suite avec nos envoyés spéciaux aux États-Unis. L'Autriche en deuil pour 3 jours après une attaque terroriste à Vienne. L'auteur de l'attentat qui a fait au moins 4 morts est un sympathisant du groupe État islamique. Nous verrons l'hommage à Vienne avec Isorias. Pour l'instant, Paris n'est pas replacé sous couvre-feu, mais les chiffres de l'épidémie en région parisienne sont très préoccupants. Un nouveau pic est redouté d'ici 15 jours, nous dira Cécilia Arbona. Et avec Stéphane Robert, nous verrons aussi combien il est difficile pour le gouvernement de faire accepter et donc appliquer sa stratégie destinée à combattre l'épidémie. Donald Trump ou Joe Biden, pour les représenter pendant les 4 années qui viennent, les Américains ont le choix entre 2 septuagénaires que tout oppose. La campagne électorale a d'ailleurs été très agressive, illustrant la fracture entre 2 Amériques. Donald Trump continue d'affirmer qu'il a de très fortes chances de gagner l'élection, alors que les sondages le placent derrière son rival Joe Biden. Nous nous rendons justement pour commencer à Wilmington, la ville du candidat démocrate. Comme ailleurs dans le pays, Claude Guibal, les électeurs affluent sans discontinuer dans les bureaux de vote.
Ici à Wilmington, la participation promet d'être historique. Comme dans le reste des États-Unis, bien qu'énormément de personnes ont déjà voté, presque 100 millions par correspondance ou par anticipation, les Américains continuent à se rendre physiquement dans les bureaux de vote malgré la difficulté pour certains. Aux États-Unis, on vote un jour de semaine et parfois aller voter si on habite loin du bureau de vote, cela veut dire perdre un jour de travail, ce qui explique pourquoi beaucoup préfèrent voter à l'avance. L'épidémie de Covid a encore compliqué la chose cette année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un vote serein, comme l'explique cette femme rencontrée alors qu'elle venait de voter.
Je voudrais bien qu'on puisse se réconcilier en tant que pays, mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive, quel que soit le vainqueur. Il y a eu trop de tourments, trop de pertes de confiance, trop de mensonges, on ne sait même plus que croire.
On l'entend dans ces mots, c'est un pays très inquiet, un pays fébrile qui s'apprête donc à passer la soirée électorale la plus historique et peut-être la plus tendue de son histoire récente.
L'afflux dans les bureaux de vote semble montrer une forte mobilisation des électeurs. La participation que vous observez attentivement depuis New York, Franck Madvon, c'est justement un enjeu majeur de ce scrutin.
Et oui, naturellement, Aurélie, dans une Amérique polarisée, il y a très peu d'indécis et on se demande quel camp parviendra le mieux à mobiliser ses troupes. Ça a été l'enjeu principal de cette campagne. D'après les derniers chiffres, près de 100 millions d'Américains ont voté par anticipation. Alors on ne sait pas encore si ça jouera en faveur des démocrates ou des républicains. Les sondages, on le sait, ont fait de Biden leur favori. Mais Donald Trump, lui, reste très confiant. Il a donné ce matin une interview à Fox and Friends, son émission favorite sur Fox News. Il avait la voix un peu éraillée après avoir tenu 14 meetings en 3 jours. Le dernier s'est terminé en pleine nuit dans le Michigan. Donald Trump se dit très confiant, donc. Je pense qu'on va gagner, que les sondages masquent les vrais chiffres. Et je ne déclarerai la victoire que quand elle sera là. Inutile de jouer avec ça. Je pense qu'on a une très bonne chance de l'emporter. Et je pense qu'on devra ce succès aux foules immenses qui sont venues à mes meetings. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce pays. Vous aurez noté ces mots « inutile de jouer avec ça ». Donald Trump répondait à une question sur l'annonce du résultat. Le président a affirmé qu'il fallait que la messe soit dite ce soir, qu'il pourrait même se déclarer vainqueur s'il apparaissait en tête, avant donc le dépouillement des votes par correspondance, qui pourrait prendre plusieurs jours dans certains états clés et qui sont réputés plus favorables aux démocrates. Trump sème le doute sur le dépouillement des bulletins et ce sera sans doute l'un des sujets de la nuit à venir.
Franck Madvon en direct de New York. Comme à chaque élection présidentielle aux États-Unis, les États clés sont tout particulièrement scrutés, en particulier la Floride et la Caroline du Nord, mais également la Pennsylvanie, où vous suivez le vote, Maxime Tellier. Il y a 4 ans, Trump avait créé la surprise en soufflant l'État à Hillary Clinton pour 44 000 voix sur près de 6 millions d'électeurs. Cette année, les démocrates veulent récupérer la Pennsylvanie et vous étiez ce matin dans un bureau de vote de Scranton, Maxime.
Oui, dans le nord-est de la Pennsylvanie, c'est la ville où Joe Biden est né, où il a passé une partie de son enfance, mais c'est surtout une région clé dans un état clé. Les candidats ont mis les bouchées doubles pour convaincre les électeurs jusqu'au dernier moment. Trump était ici hier soir, par exemple, pour l'un de ses derniers meetings. Alors, région clé parce qu'elle symbolise ce qui est arrivé il y a 4 ans, un état démocrate à l'origine, des ouvriers du charbon de l'industrie, et Trump fait tout basculer en 2016. Il gagne la présidence, win back Pennsylvania and the White House, récupérer la Pennsylvanie et la Maison Blanche, c'est l'enjeu donc pour les démocrates. Et la clé, c'est la participation. Il faut que les gens se déplacent. Ce matin, dans ce quartier résidentiel de Scranton, c'était le cas dès 7h du matin.
J'espère seulement que les choses s'améliorent un peu et il faut virer ce trou du cul de la Maison Blanche.
Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'espère seulement que Biden gagne. Je n'étais pas surprise par la victoire de Trump il y a 4 ans. Mais je pense que les jeunes de la nouvelle génération vont se déplacer et voter Biden.
Je vais voter Donald Trump.
Et les électeurs de Trump n'étaient pas très bavards ce matin. Il a fallu que je lui demande si Trump pouvait recréer la surprise malgré les sondages défavorables.
Absolument, parce qu'il fait un super boulot. Je ne m'attends pas à un résultat clair. J'ai vraiment peur d'un nouvel épisode comme Bush en 2000.
Voilà, en 2000, il avait fallu plus d'un mois pour connaître le vainqueur de l'élection, George Bush. Cette fois-ci, ce ne sera peut-être pas aussi long. La Cour suprême en Pennsylvanie autorise le recompte des voix, le compte des bulletins reçus par correspondance jusqu'à 3 jours après le vote. Il y en a beaucoup, hein, 3 fois plus de votes anticipés qu'il y a 4 ans. En tout cas, ce matin, tout était calme. Chacun attendait son tour avec un masque. Même si la capitale Washington se barricade par crainte de troubles, en Pennsylvanie, jusqu'ici, tout va bien.
Maxime Tellier en direct de Scranton dans le nord-est de la Pennsylvanie. À Vienne en Autriche, c'est la consternation et l'incompréhension. La paisible capitale autrichienne a été frappée la nuit dernière par une attaque islamiste. 4 personnes ont été tuées dans le centre historique de Vienne. 15 autres sont toujours hospitalisées. Une cérémonie d'hommage aux victimes a été organisée sur les lieux de l'attaque, Isorias.
Un monsieur âgé, une dame âgée, un jeune passant et une serveuse.
Le chancelier Sébastien Kurz rend hommage aux 4 victimes décédées dans cet attentat qualifié de brutal, mais aussi aux blessés. En présence notamment du président de la République, Alexander Van der Bellen, le jeune conservateur a déposé une couronne de fleurs sur la Schwedenplatz, cette place autour de laquelle plusieurs attaques ont eu lieu lundi soir. Le choc est toujours là, mais Sébastien Kurz se veut rassembleur.
Nous n'autoriserons jamais cette haine à gagner du terrain. Nous devons être conscients que ce n'est pas un conflit entre les chrétiens et les musulmans ou entre les autrichiens et les migrants. Notre ennemi, l'extrémisme islamiste, ne veut pas seulement semer des morts et la douleur, il veut diviser notre société.
L'Autriche a décrété aujourd'hui 3 jours de deuil national. Du côté de l'enquête, les choses avancent aussi. Le suspect, abattu par les forces de l'ordre lundi soir, a été identifié. Âgé de 20 ans, le jeune homme avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. 18 perquisitions et 14 arrestations ont eu lieu dans son entourage, selon le ministre de l'Intérieur.
Isorias, à Vienne, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à l'ambassade d'Autriche pour apporter son soutien inconditionnel au peuple autrichien, appelant à une réponse européenne contre des ennemis qui s'attaquent à ce qu'est l'Europe. Comme lui, les pays européens expriment leur solidarité avec l'Autriche, Angélique Point.
Un acte lâche qui viole la vie et nos valeurs humaines, a tweeté le Belge Charles Michel, président du Conseil européen et à ce titre porte-parole des 27. Se disant choqué, mais aussi attristé, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, exprime de son côté sa solidarité avec Vienne en précisant sa détermination à ne rien céder aux terroristes. Nous sommes, dit-elle, plus forts que la haine et la terreur. Le terrorisme islamiste, c'est notre ennemi commun, renchérit la chancelière allemande Angela Merkel, pour qui lutter contre ces assassins est aussi notre combat commun. L'Allemagne qui a décidé de renforcer ses contrôles aux frontières avec l'Autriche dans le cadre des recherches pour arrêter d'éventuels complices. À Madrid, on dénonce cette nouvelle attaque insensée, dit le Premier ministre Pedro Sanchez, qui ajoute que la haine ne fera pas plier nos sociétés. Il est temps de sonner l'alarme et de joindre nos forces contre la terreur, déclare le ministre des Affaires étrangères hongrois. Son homologue italien propose lui un Patriot Act européen à l'image de la loi antiterroriste américaine, cette loi qui modifie un certain nombre de libertés fondamentales et qui donne plus de marge de manœuvre aux agences de renseignement. Luigi Di Maio appelle à un contrôle renforcé au niveau européen des mosquées, mais en coopération avec les représentants de l'islam modéré. Il en discutera, dit-il, très bientôt avec ses homologues.
Et au Royaume-Uni, le niveau d'alerte terroriste vient d'être relevé. En Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a été officiellement réélu pour un troisième mandat présidentiel, le gouvernement accuse l'opposition de complot contre l'autorité de l'État. Henri Conan Bédié, le chef de l'opposition, a vu sa résidence encerclée par les forces de l'ordre. Il prétendait former un gouvernement de transition et s'apprêtait à donner une conférence de presse. En France, la deuxième vague épidémique poursuit sa montée. Les Hauts-de-France envisagent dans les prochains jours de transférer certains malades vers l'Allemagne. Et en Île-de-France aussi, la situation sanitaire est très préoccupante. 80% des lits d'hôpitaux sont maintenant occupés par des patients Covid-19 et les courbes de nouveaux malades et de morts continuent de grimper, Cécilia Arbona.
Les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France sont chaque jour de plus en plus mauvais. 5625 personnes étaient hospitalisées hier contre 5194 la veille. 939 patients Covid sont en soins critiques alors que dimanche, ils étaient 891. Ça ne va pas s'arranger, prévient le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.
Oui, malheureusement, la tendance elle est à une augmentation exponentielle des cas de Covid. Et donc cette augmentation des hospitalisations, notamment en Île-de-France, nous amène à un nouveau pic d'ici environ une quinzaine de jours. Ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que ce confinement n'aura pas l'effet du premier confinement. Le confinement n'est pas aussi strict. Et surtout, globalement, en automne et en hiver, on a beaucoup d'épidémies dites automno-hivernales d'infections respiratoires. Il y a d'autres maladies, la grippe bien sûr, le virus respiratoire syncytial chez les enfants. On sait très bien que la fin des épidémies des infections respiratoires, c'est souvent dans le courant du mois de mars ou du mois d'avril. Donc il faut changer notre façon de vivre, qu'on continue à garder cette bulle qui fait qu'on limite son nombre de contacts, idéalement à 6 personnes, pour contrôler la circulation du virus sur le territoire jusqu'à, je l'espère, un vaccin cet été.
L'été prochain, c'est-à-dire l'été 2021, une échéance qui apparaît dans ce monde d'après comme à des années-lumière de nous.
Contrairement à ce que le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal annonçait ce matin, il n'y a pas de couvre-feu à Paris. Mais le préfet de police s'inquiète des regroupements devant des restaurants faisant de la livraison. Même s'il a décidé de mettre en place un nouveau confinement moins strict que le précédent, on voit la difficulté que rencontre le gouvernement Stéphane Robert pour faire accepter les mesures de restriction sanitaire.
Si le soutien au reconfinement reste largement majoritaire, la contestation grimpe au sein d'une partie de l'opinion. C'est ce qui ressort des enquêtes réalisées ces derniers jours, nous dit le politologue enseignant à Sciences Po Paris, Pascal Perrineau.
En mars, c'était plus de 90% de la population qui approuvait le confinement. Aujourd'hui, ce sont 2/3 des Français qui approuvent. Donc on voit qu'il y a une érosion du soutien au confinement et que maintenant, c'est constitué une minorité de Français qui ne sont pas favorables au confinement. Et quand on regarde en détail ces enquêtes, c'est en particulier chez les jeunes, moins de 35 ans, presque 40% de cette génération se retrouvent dans une position plus ou moins défavorable au confinement.
Au-delà des jeunes, beaucoup de ceux qui se sentent fragiles, économiquement parlant, ont aussi du mal à accepter les restrictions. Les cafouillages du gouvernement peuvent également alimenter la défiance, mais plus globalement, reprend Pascal Perrineau, c'est la multiplication des crises qui nourrit la contestation et le ressentiment.
L'opinion est inquiète. Elle est inquiète certainement sur le terrain sanitaire, mais aussi sur le terrain sécuritaire. Et il y a un phénomène d'usure. L'opinion est fatiguée. Certaines zones de cette opinion, carrément, ne sont pas loin d'une certaine forme de déprime sociale. Et c'est aussi cela que l'on mesure. Et c'est dans ce contexte d'inquiétude que peut s'instiller une certaine forme de protestation.
Alors maintenant, faut-il craindre une généralisation de la colère ? Sans doute pas. Une très large majorité de la population considère encore qu'il faut faire corps face à la menace. Mais le politologue met en garde pour les semaines et les mois à venir contre une possible gilet jaunisation, dit-il, de la protestation.
Et lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée, l'aura du lieu, l'opposition est revenue à la charge sur la question de l'ouverture des petits commerces.
Le sujet était inévitable après la polémique de ces derniers jours et l'incertitude pour de nombreux commerçants. Charles de Courson, député centriste du groupe Liberté et Territoire, interpelle le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Allez-vous créer des brigades de contrôle, des caddies ? pour vérifier que seuls des produits essentiels sont vendus. Envisagez-vous d'autoriser les petits et moyens commerces non alimentaires de recevoir sur rendez-vous leur clientèle comme mon groupe vous l'a proposé ? Envisagez-vous de créer un impôt exceptionnel sur les grandes entreprises du e-commerce ?
Bruno Le Maire, qui a dû défendre son action à de nombreuses reprises.
Le fonds de solidarité a été porté à 10 000 euros. Les entreprises pourront faire du click and collect et le chiffre d'affaires ne sera pas déduit du fonds de solidarité. Ils n'auront à payer aucune charge sociale. Nous pourrons prendre en charge leur loyer grâce au crédit d'impôt que vous avez voté. Nous allons leur permettre de renouveler des prêts garantis par l'État s'ils le souhaitent. Les commerçants de France doivent savoir qu'ils peuvent compter sur le soutien complet, total et entier de cette majorité.
Le ministre de l'Économie a aussi rappelé qu'il recevait toutes les fédérations de commerçants cette semaine avec des décisions le 12 novembre sur d'éventuels protocoles sanitaires pour les commerces. Pour le moment, ce sont environ 70 maires, selon le Premier ministre, qui ont pris des arrêtés préfectoraux permettant l'ouverture de ces petits commerces.
Et Jean Castex déplore que certains élus appellent les maires à violer les règles de la République en prenant des arrêtés, donc pour rouvrir les commerces. Le gouvernement a aussi du mal à se faire entendre sur le télétravail qui doit permettre de limiter le brassage des personnes. La ministre Elisabeth Borne a dû encore le rappeler ce matin à Annabelle Grelier. Le télétravail, c'est une obligation.
Le télétravail n'est pas une option, il doit être la règle dès qu'il est possible, prône le gouvernement. Et si le message n'avait pas été bien compris, Elisabeth Borne précise « Si toutes vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail », rappelle-t-elle. L'objectif est de limiter les interactions et les déplacements. Mais encore trop d'entreprises seraient réticentes au télétravail et continueraient d'imposer des jours de présence à leurs salariés. Des entreprises qui n'ont pas basculé tous les postes qui pourraient l'être en télétravail. Les chercheurs de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'expliquent par des contraintes concernant une éventuelle perte d'efficacité ou de contrôle du travail, une absence de compétences numériques pour certains salariés ou encore par un manque d'équipement permettant le travail à distance. Bien sûr, il faut un peu de temps pour qu'employeurs et salariés s'organisent, mais la ministre d'insister. Les employeurs qui refuseraient le télétravail sans justification s'exposent à des sanctions. Une menace qui pose quand même quelques questions au moment où les négociations en vue d'un accord interprofessionnel sont en cours et que justement, le patronat refuse qu'il ne comporte une quelconque contrainte. C'est donc sur la loi qui donne à l'employeur une obligation de protection et de sécurité des salariés que s'appuie la ministre du Travail. L'inspection du travail est mobilisée, affirme-t-elle. Une enquête à la fin de la semaine sera menée pour mesurer la façon dont ces obligations sont mises en œuvre. Voilà les entreprises prévenues.
Un collectif de syndicats et d'associations dresse son bilan de la loi Egalim. Issue des états généraux de l'alimentation, cette loi devait révolutionner le monde de l'agroalimentaire français, notamment en favorisant une nouvelle construction des prix. Elle fixait par ailleurs des objectifs ambitieux de réduction des pesticides, d'accès à une agriculture plus saine et plus durable et de changement des pratiques alimentaires et agricoles. 2 ans après la promulgation de la loi, une trentaine d'ONG, syndicats et organisations affirment ensemble qu'elle n'a pas atteint ses objectifs.
Alors que s'ouvrent en ce moment les négociations annuelles commerciales, des discussions opaques entre distributeurs, producteurs et industriels sur le prix des produits alimentaires, des discussions qui, grâce à la loi Egalim, devaient gagner en transparence et faire gagner du revenu aux agriculteurs, les grands perdants éternels de ces tractations. Mais le constat fait mal. Selon l'UFC Que Choisir, non seulement le revenu payé aux agriculteurs est plus faible aujourd'hui qu'avant la loi, mais le prix payé par le consommateur est en moyenne plus élevé. Grande distribution et agro-industrie, elles, ont augmenté leurs profits. Sur le volet transition agroécologique, les associations pointent carrément des reculs, avec notamment la réautorisation des néonicotinoïdes pour les betteraves. Pour Fabrice Bouin, président du réseau CIVAM, les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, la faute en revient certes à la loi, mais surtout au monde agricole lui-même, trop peu enclin à changer de pratique.
Il y a de la part du syndicat majoritaire qui a la chance d'avoir une oreille attentive de la part du pouvoir public, des freins qui sont mis pour taire, en fait, le fait qu'on puisse se passer de ces produits. Dès qu'il se pose un problème agronomique, on ne peut plus lutter contre certains ravageurs. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Et très vite, c'est revenons aux vieilles habitudes et à l'emploi de ce qui est interdit aujourd'hui, parce que on ne veut pas remettre en cause les pratiques qui nous mène dans une impasse.
La PAC, qui se négocie en ce moment, comme la partie agricole du plan de relance, semble prendre le même chemin, des ambitions modestes et des moyens mal ciblés.
L'OPA sur Suez se fera quoi qu'il arrive, déclaration ce matin du PDG de Veolia. Antoine Frérot en appelle aux autres actionnaires de Suez pour convaincre l'actuel conseil d'administration de la pertinence de son offre, ou si ce n'est pas possible, pour le remplacer lors d'une prochaine assemblée générale. Mais les dirigeants de Suez, comme l'intersyndicale, continuent de clamer leur opposition à ce projet de rachat. Et selon nos informations, Bercy considère désormais l'offre de Veolia comme une offre hostile. Les élèves du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine ont fait leur rentrée aujourd'hui en décalé. C'est dans cet établissement qu'enseignait Samuel Paty, l'enseignant décapité le 16 octobre après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. À la suite de l'hommage qui lui a été rendu hier dans tous les établissements scolaires, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte à Strasbourg. Elle vise deux collégiens. Lors des échanges entourant la minute de silence, les deux adolescents auraient tenu des propos, laissant entendre qu'ils justifiaient l'assassinat du professeur. Les prévisions météo, un ciel plus lumineux et le retour du soleil sur la moitié nord-ouest, mais des nuages sur l'est. Il fera frais demain matin, 0 à 12 degrés maximum. L'après-midi, 9 à 13 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 20 sur la bordure méditerranéenne. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon.